Prosper Mérimée, H.B. Il y a un passage de l'Odyssée qui me revient souvent en mémoire. Le spectre d'Elpénor apparaît à Ulysse et lui demande les honneurs funèbres. « Ne me laisse pas sans être pleuré, sans être enterré. » Aujourd'hui, l'enterrement ne manque à personne grâce à un règlement de police. Mais nous autres païens, nous avons aussi des devoirs à remplir envers nos morts, qui ne consistent pas seulement dans l'accomplissement d'une ordonnance de grande voirie. J'ai assisté à 3 enterrements païens, celui de X qui s'était brûlé la cervelle, son maître grand philosophe et ses amis eurent peur des honnêtes gens et n'osèrent parler. Celui de M, il avait défendu les discours. Et celui de B, enfin, nous nous y trouvâmes 3 et si mal préparés que nous ignorions ses dernières volontés. Chaque fois, j'ai senti que nous avions manqué à quelque chose, sinon envers le mort, du moins envers nous-mêmes. Qu'un de nos amis meurt en voyage, nous aurons un vif regret de ne pas lui avoir dit adieu au moment du départ. Un départ, une mort, doivent se célébrer avec une certaine cérémonie, car il y a là quelque chose de solennel. Ne fût-ce qu'un repas, une association de pensées régulières, il faut quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que demande Elpénor. Ce n'est pas seulement un peu de terre qu'il réclame, c'est un souvenir. J'écris les pages suivantes pour suppléer à ce que nous ne fîmes point aux funérailles de H.B. Je veux partager avec quelques-uns de ses amis mes impressions et mes souvenirs. B, original en toute chose, ce qui est un vrai mérite à cette époque de monnaies effacées, ce piquet de libéralisme était au fond de l'âme un aristocrate achevé. Il ne pouvait souffrir les sots. Il avait pour les gens qui l'ennuyaient une haine furieuse, et de sa vie il n'a pas su bien nettement distinguer un méchant d'un fâcheux. Il affichait un profond mépris pour le caractère français, et il était éloquent à faire ressortir tous les défauts dont on accuse à tort, sans doute, notre grande nation, légèreté, tourderie, inconséquence en paroles et en actions. Au fond, il avait un haut degré ces mêmes défauts. Et pour ne parler que de l'étourderie, il écrivit un jour à M une lettre chiffrée et lui transmit le chiffre sous la même enveloppe. Toute sa vie, il fut dominé par son imagination et ne fit rien que brusquement et d'enthousiasme. Cependant, il se piquait de n'agir jamais que conformément à la raison. « Il faut en tout se guider par la logique », disait-il en mettant un intervalle entre la première syllabe et le reste du mot. Mais il souffrait impatiemment que la logique des autres ne fût pas la sienne. D'ailleurs, il ne discutait guère. Ceux qui ne le connaissaient pas attribuaient un excès d'orgueil, ce qui n'était peut-être que respect pour les convictions des autres. « Vous êtes un chat, je suis un rat », disait-il souvent pour terminer les discussions. Un jour, nous voulûmes faire ensemble un drame, et notre héros avait commis un crime et était tourmenté de remords. « Pour se délivrer d'un remords, dit B, que faut-il faire ?» Il réfléchit un instant. « Il faut fonder une école d'enseignement mutuel. » Notre drame en resta là. Il n'avait aucune idée religieuse, ou s'il en avait, il apportait un sentiment de colère et de rancune contre la Providence. « Oh, ce qui excuse Dieu, disait-il, c'est qu'il n'existe pas. » Une fois chez Madame P., il nous dit la théorie cosmogonique suivante. « Dieu était un mécanicien très habile. » Il travaillait jour et nuit à son affaire, parlant peu, et inventant sans cesse tantôt un soleil, tantôt une comète. On lui disait « Mais écrivez donc vos intentions, il faut pas que cela se perde. »« Non, répondait-il, rien n'est encore au point où je veux. Laissez-moi perfectionner mes découvertes. Et alors ?» Un beau jour, il mourut subitement. On fit chercher son fils unique qui étudiait aux jésuites. C'était un garçon doux et studieux qui ne savait deux mots de mécanique. On le conduit dans l'atelier, son père. « Allons, à l'ouvrage, il s'agit de gouverner le monde. » Le voilà bien embarrassé. Il demande, « Mais comment faisait mon père ?»« Ben, il tournait sept roues, il faisait ceci, il faisait cela. » Il tourne la roue et les machines vont tout de travers. B me dit qu'il avait fait un drame de la vie. Il l'avait représenté comme une âme simple, naïve, toute pleine de sensibilité et de tendresse, mais incapable de commander aux hommes. Dans ce drame, il exploitait à son profit la doctrine de « Y a-t-il de l'amour dans votre drame ?» lui demandai-je. « Oh, beaucoup !» Et le disciple chéri, il soutenait que tous les grands hommes ont eu des goûts bizarres et citait Alexandre, César, 20 papes italiens. Il prétendait que lui-même avait eu du faible pour un de ses aides de camp. Il était difficile de savoir ce qu'il pensait de Napoléon. Presque toujours, il était de l'opinion contraire à celle que l'on mettait en avant. Tantôt, il en parlait comme d'un parvenu ébloui par les oripeaux, manquant sans cesse aux règles de la logique. D'autres fois, c'était une admiration presque idolâtre. Tour à tour, il était frondeur comme Courrier et servile comme Las Casas. Les hommes de l'Empire étaient traités aussi diversement que leurs maîtres. Il convenait de la fascination exercée par l'empereur sur tout ce qu'il approchait. « Eh, moi aussi, disait-il, j'ai eu le feu sacré. On m'avait envoyé à Brunswick pour lever une imposition extraordinaire de 5 millions. J'en ai fait rentrer 7, et j'ai manqué d'être assommé par la canaille qui s'insurgea, exaspéré par l'excès de mon zèle. Mais l'empereur demanda quel était l'auditeur qui avait fait cela, et dit « C'est bien ». Nous aimions à l'entendre parler des campagnes qu'il avait faites avec l'empereur. Ses récits ne ressemblaient guère aux relations officielles. On en jugera. Dans une affaire fort chaude, il ranguait les soldats près de se débander, et voici en quels termes. « En avant, sacré nom de Dieu, j'ai le cul rond comme une pomme, soldat, j'ai le cul rond comme une pomme !» Dans le moment du danger, disait B, cela paraissait une harangue ordinaire, et je suis persuadé que César et Alexandre ont dit dans de telles occasions d'aussi grosses bêtises. Parti de Moscou, B se trouva le soir du 3e jour de la retraite, avec environ 1 500 hommes, séparés du gros de l'armée par un corps russe considérable. On passa une partie de la nuit à se lamenter, puis les gens énergiques haranguèrent les poltrons et à force d'éloquence les engagèrent à s'ouvrir un chemin, l'épée à la main, haut dès que le jour permettrait de distinguer l'ennemi. Autre genre d'allocution militaire. « Tas de canailles, vous serez tous morts demain car vous êtes trop gens en foot pour prendre un fusil et vous en servir, etc. » Ces paroles sublimes ayant produit leur effet à la petite pointe du jour, on marcha résolument aux Russes, dont on voyait encore briller les feux de bivouac. On y arrive sans être découvert et l'on trouve un chien tout seul. Les Russes étaient partis dans la nuit. Pendant la retraite, il n'avait pas trop souffert de la faim, mais il lui était absolument impossible de se rappeler comment il avait mangé et ce qu'il avait mangé, si ce n'est un morceau de suif qu'il avait payé 20 francs, et dont il se souvenait encore avec délice. Il avait emporté de Moscou les volumes des facéties de Voltaire, reliés en maroquin rouge, qu'il avait pris dans une maison qui brûlait. Ses camarades trouvaient cette action un peu légère. Dépareiller une magnifique édition. Lui-même en éprouvait une espèce de remords. Un matin, aux environs de la Bérésina, il se présenta à Madame D., rasée et habillée avec quelques soins. Vous avez fait votre barbe, lui dit Monsieur D., vous êtes un homme de cœur. Monsieur B., auditeur au Conseil d'État, m'a dit qu'il devait la vie à B., qui, prévoyant l'encombrement des ponts, l'avait obligé à passer la Bérésina le soir qui précéda la déroute. Il fallut employer presque la force pour obtenir qu'il fît quelques centaines de pas. Monsieur B. faisait l'éloge du sang-froid de B. et du bon sens qui ne l'abandonnait pas dans un moment où les plus résolus perdaient la tête. En 1813, B. fut témoin involontaire de la déroute d'une brigade entière chargée inopinément par 5 cosaques. B. vit courir environ 2000 hommes, dont 5 généraux reconnaissables à leur chapeau bordé. Il courut comme les autres, mais mal, n'ayant qu'un pied chaussé et portant une botte à la main. Dans tout ce corps français, il ne se trouva que 2 héros qui furent tête aux cosaques. Un gendarme nommé Meneval et un conscrit qui tua le cheval du gendarme en voulant tirer sur les cosaques. B. fut chargé de raconter cette panique à l'empereur, qu'il écoutait avec une fureur concentrée, en faisant tourner une de ces machines en fer qui servent à fixer les persiennes. On chercha le gendarme pour lui donner la croix, mais il se cachait, et nia d'abord qu'il eût été à l'affaire, persuadé que rien n'est si mauvais que d'être remarqué dans une déroute. Il croyait qu'on voulait le fusiller. Sur l'amour, B. était encore plus éloquent que sur la guerre. Je ne l'ai jamais vu qu'amoureux ou croyant l'être, mais il avait eu deux amours-passions, je me sers d'un de ces termes, dont il n'avait jamais pu guérir. L'un, le premier en date, je crois, lui avait été inspiré par Madame, alors dans tout l'éclat de sa beauté. Oh, il avait pour rivaux bien des hommes puissants, entre autres un général fort en faveur, qui abusa un jour de sa position pour obliger B. à lui céder sa place auprès de la dame. Le soir même, B. trouva moyen de lui faire tenir une petite fable de sa composition, dans laquelle il lui proposait allégoriquement un duel. Je ne sais si la fable fut comprise, mais on n'accepta pas la moralité, et B. reçut une verte semonce de M. D., son parent et son protecteur. Oh, il n'en continua pas moins les poursuites. En 1836, B. me racontait cette aventure le soir, sous les grands arbres de la promenade de l'An. Il ajoutait qu'il venait de voir Madame, alors âgée de 47 ans, et qu'il s'était trouvé aussi amoureux qu'au premier jour. L'un et l'autre avaient eu bien d'autres passions dans l'intervalle. « Mais comment pouvez-vous m'aimer encore à mon âge ?» disait-elle. Il le lui prouvait très bien, et jamais je ne l'ai vu montrer tant d'émotion. Il avait les larmes aux yeux en me parlant. Son autre amour-passion fut pour une belle Milanaise nommée Madame. Malgré la bonne foi des Italiennes, qui l'opposaient sans cesse à la coquetterie des nôtres, Madame le trahissait indignement. Il avait eu l'art de lui persuader que son mari, le plus débonnaire des hommes, était un monstre de jalousie, et elle obligeait B. à se cacher à Turin, car sa présence à Milan l'aurait perdu, disait-elle. Une fois, tous les 10 jours, au cœur de l'hiver, B venait à Milan dans le plus strict incognito, se cachait dans une méchante auberge, et la nuit était introduit chez sa belle par une femme de chambre qu'il payait bien. Cela dura quelque temps et toujours des précautions infinies. Pourtant la femme de chambre eut un remords et lui avoua qu'on le trompait et qu'on avait autant d'amants différents qu'il passait le jour en exil. D'abord il n'en voulut rien croire. À la fin cependant il accepta une expérience. On le fit cacher dans un cabinet, et là, en mettant l'œil au trou d'une serrure, il vit à 3 pieds de lui la plus monstrueuse pièce de conviction. B me dit que la singularité de la chose et le ridicule de la situation lui donnèrent d'abord une gaieté folle, et qu'il eut toutes les peines du monde à ne pas alarmer les coupables en éclatant de rire. Mais ce ne fut qu'au bout de quelque temps qu'il sentit son malheur. L'infidèle, que pour toute vengeance il avait un peu persiflé, essaya de le fléchir, lui demandant grâce à genoux, et le suivit dans cette attitude tout le long d'une grande galerie. L'orgueil l'empêcha de lui pardonner, et il s'en accusait avec amertume en se rappelant l'air passionné de madame. Jamais elle ne lui avait paru si désirable, jamais elle n'avait eu tant d'amour. Il avait sacrifié à l'orgueil le plus grand plaisir qu'il eût pu goûter avec elle. Il fut 18 mois à se consoler. « J'étais abruti, disait-il. Oh, je ne pensais plus, j'étais accablé d'un poids insupportable, sans pouvoir me rendre compte nettement de ce que j'éprouvais. C'est le plus grand des malheurs. Il prive de toute énergie. » Depuis, un peu remis de cette langueur accablante, j'avais une curiosité singulière à connaître toutes ces infidélités. Je m'en faisais raconter tous les détails. Cela me faisait un mal affreux, mais j'avais un certain plaisir physique à me la représenter dans toutes les situations où on la décrivait. B m'a toujours paru convaincu de cette idée très répandue sous l'Empire, qu'une femme peut toujours être prise d'assaut et que c'est pour tout homme un devoir d'essayer. « Ayez-la, c'est d'abord ce que vous lui devez, » me disait-il, quand je lui parlais d'une femme dont j'étais amoureux. Un soir, à Rome, il me conta que la comtesse venait de lui dire « voy » au lieu de « lei » et me demanda s'il ne devait pas la violer. Oh, je l'y exhortais fort. Je n'ai connu personne qui fût plus galant homme à recevoir les critiques sur ses ouvrages. Ses amis lui parlaient toujours sans le moindre ménagement. Plusieurs fois, il m'envoya des manuscrits qu'il avait déjà communiqués à V et qui revenaient avec des notes marginales comme celle-ci, « détestable, style de portier, etc. etc. » Quand il fit paraître son livre, « De l'amour », ce fut à qui s'en moquerait davantage, au fond, fort injustement. Jamais ses critiques n'altérèrent ses relations avec ses amis. Il écrivait beaucoup et travaillait longtemps ses ouvrages, mais au lieu d'en corriger l'exécution, il en refaisait le plan. S'il effaçait les fautes d'une première rédaction, c'était pour en faire d'autres, car je ne sache pas qu'il ait jamais essayé de corriger son style. Quelque raturés que fussent ses manuscrits, on peut dire qu'ils étaient toujours écrits de premier jet. Ses lettres sont charmantes, c'est sa conversation même. Il était très gai dans le monde, fou quelquefois, négligeant trop les convenances et les susceptibilités. Souvent, il était de mauvais ton, mais toujours spirituel et original. Bien qu'il n'eût de ménagement pour personne, il était facilement blessé par des mots échappés sans malice. « Oh, je suis un jeune chien qui joue, me disait-il, et on me mord. » Il oubliait qu'il mordait parfois lui-même et assez serré. c'est qu'il ne comprenait guère qu'on pût avoir d'autres opinions que les siennes sur les choses et sur les hommes. Par exemple, il n'a jamais pu croire qu'il y eût des dévots véritables. Un prêtre et un royaliste étaient toujours pour lui des hypocrites. Ses opinions sur les arts et la littérature ont passé pour des hérésies téméraires lorsqu'il les a produites. Mais aujourd'hui, quelques-uns de ses jugements ont l'air de vérité de M. de la Palice. Lorsqu'il mettait Mozart, Cimarosa, Rossini au-dessus des faiseurs d'opéra comique de notre jeunesse, il soulevait des tempêtes. C'est alors qu'on l'accusait de n'avoir pas des sentiments français. Il est pourtant très français dans ses opinions sur la peinture, bien qu'il prétende la juger en italien. Il apprécie les maîtres avec les idées françaises, c'est-à-dire au point de vue littéraire. Les tableaux des écoles d'Italie sont examinés par lui comme des drames. C'est encore la façon de juger en France, où l'on n'a ni le sentiment de la forme ni un goût inné pour la couleur. Il faut une sensibilité particulière et un exercice prolongé pour aimer et comprendre la forme et la couleur. B prête des passions dramatiques à une Vierge de Raphaël. J'ai toujours soupçonné qu'il aimait les grands peintres des écoles lombardes et florentines parce que leurs ouvrages le faisaient penser à bien des choses auxquelles sans doute les maîtres ne pensaient pas. C'est le propre des Français de tout juger par l'esprit. Il est juste d'ajouter qu'il n'y a pas de langue qui puisse exprimer les finesses de la foule de la variété des effets de la couleur. Faute de pouvoir exprimer ce que l'on sent, on réécrit d'autres sensations qui peuvent être comprises par tout le monde. B m'a toujours paru assez indifférent à l'architecture et n'avait sur cet art que des idées d'emprunt. Je crois lui avoir appris à distinguer une église romane d'une église gothique et qui plus est, à regarder l'une et l'autre. Il reprochait à nos églises d'être tristes. Il sentait mieux la sculpture de Canova que tout autre, même que les statues grecques. Peut-être parce que Canova a travaillé pour les gens de lettres. Il s'est beaucoup plus occupé des idées qu'il exciterait dans l'esprit cultivé que de l'impression qu'il pourrait produire sur un œil qui aime et connaît la forme. Pour Aubé, la poésie était lettre close. Souvent, il lui arrivait d'estropier en les citant des vers français. Il ne connaissait ni le maître, ni l'accentuation des vers anglais et italiens, et cependant, il était réellement sensible à certaines beautés de Shakespeare et du Dante, qui sont intimement unies à la forme du vers. Il a dit son dernier mot sur la poésie dans son livre de l'amour. Les vers furent inventés pour aider la mémoire, les conserver dans l'art dramatique reste de la barbarie. Racine lui déplaisait souverainement. Le grand reproche que nous lui adressions vers 1820, c'est qu'il manque absolument aux mœurs ou à ce que dans notre jardin romantique nous appelions alors la couleur locale. Shakespeare, que nous opposions sans cesse à Racine, a fait en ce genre des fautes 100 fois plus grossières. Mais, disait B, Shakespeare a mieux connu le cœur humain. Il n'y a pas de passion ou de sentiment qu'il n'ait peint avec une admirable vérité. La vie et l'individualité de ses personnages le mettaient au-dessus de tous les auteurs dramatiques. « Et Molière ?» répondait-on. « Oh, Molière est un coquin qui n'a pas voulu représenter le courtisan parce que Louis XIV ne le trouvait pas bon. » Dans la pratique de la vie, B avait une suite de maximes générales qu'il fallait, disait-il, observer infailliblement sans les discuter dès qu'on les avait une fois trouvées commodes. À peine permettait-il d'examiner un instant si le cas particulier rentrait dans une de ses théories générales. Jusqu'à 30 ans, il voulait qu'un homme, se trouvant avec une femme seule, tentât l'abordage. Cela réussit, disait-il, une fois sur 10. Or, la chance d'un sur 10 vaut bien la peine d'essuyer 9 rebuffades. Ne jamais pardonner un mensonge, ne jamais se repentir. Prendre aux cheveux la première occasion de querelle à son entrée dans le monde, voilà quelques-unes de ses maximes. Il se moquait de moi en me voyant étudier le grec à 25 ans. « Vous êtes sur le champ de bataille, disait-il. Ce n'est plus le moment de polir votre fusil, il faut tirer. » Il avait souffert, comme tant d'autres, de la mauvaise honte dans sa jeunesse. C'est une chose difficile pour un jeune homme que d'entrer dans un salon. Il s'imagine qu'on le regarde et craint toujours de n'être pas correct. « Je vous conseille, me disait-il, d'entrer avec l'attitude que le hasard vous a fait prendre dans l'antichambre. Convenable ou non, qu'importe. Soyez comme la statue du commandeur et ne changez de maintien que lorsque l'émotion de l'entrée aura disparu. » Il avait une autre recette pour les duels. Pendant qu'on vous vise, regardez un arbre et appliquez-vous à en compter les feuilles. Il aimait la bonne chair. Cependant, il trouvait du temps perdu celui qu'on passe à manger et souhaitait qu'en avalant une boulette le matin, on fût quitte de la faim pour toute la journée. Aujourd'hui, on est gourmand et on s'en vante. Oh, du temps de B, un homme prétendait surtout à l'énergie et au courage. Comment faire campagne si l'on est gastronome? La police de l'Empire pénétrait partout à ce qu'on prétend, et Fouché savait tout ce qui se disait dans les salons de Paris. B était persuadé que cet espionnage gigantesque avait conservé tout son pouvoir occulte. Aussi, une sorte de précaution dont il ne s'entoura pour les actions les plus indifférentes. Jamais il n'écrivait une lettre sans la signer d'un nom supposé, César, Bombay, Cotonnet, etc. Il datait ses lettres d'abeilles au lieu de... et souvent les commençait par une telle phrase. « J'ai reçu vos sales grèges et je les ai emmagasinées en attendant leur embarquement. » Tous ses amis avaient leur nom de guerre et jamais il ne les appelait d'une autre façon. Personne n'a su exactement quels gens il voyait, quels livres il avait écrit, quels voyages il avait fait. Je m'imagine que quelques critiques du XXe siècle découvrira les livres de B dans le fatras de la littérature du XIXe et qu'il leur rendra la justice qu'ils n'ont pas trouvée auprès des contemporains. C'est ainsi que la réputation de Diderot a grandi au XIXe siècle. C'est ainsi que Shakespeare, oublié du temps de Saint-Évremond, a été découvert par Garrick. Il serait bien à désirer que les lettres de B fussent publiées un jour. Elle ferait connaître et aimer un homme dont l'esprit et les excellentes qualités ne vivent plus que dans la mémoire d'un petit nombre d'amis.